Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 19 avril 2024. Et bienvenue au Game Service. Vendredi, samedi et dimanche sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. On va vous retrouver cette semaine, mi-avril, déjà. Et c'est dur de manquer de sujet. On a l'impression que c'est le printemps, on arrive tranquillement pas vite sur le rythme estival. Mais non, on ne manque pas. On ne manque pas de sujet. À 99 jours des Jeux Olympiques, notamment. On voulait faire la plus grande cérémonie d'ouverture à l'extérieur d'un stade. Mais là, avec le climat géopolitique en général, on recommence à se poser la question si c'était une bonne chose et devrait-on plutôt aller dans un stade? Parce qu'on voulait le faire en extérieur, sur la scène, ni plus ni moins. Mais là, c'est ça. Ça risque d'être un petit peu compromis. Mais... cet été, il y aura Jeux olympiques, ça c'est sûr et certain. 100 ans se sont écoulés entre les précédents Jeux olympiques d'été à Paris, soit 1924, et ceux de cet été, en 2024. 100 ans pile, il y en a eu d'autres en France, entre-temps, mais à Paris même. La troisième fois? Il me semble qu'il y en avait eu avant, ça. Mais quand même, la dernière fois remonte à il y a 100 ans. À suivre pour ces prochains Jeux olympiques, bien évidemment. Sinon, un sujet peut-être qui a été manqué, mais tout est un peu invraisemblable dans cette histoire-là et en même temps, tout est quand même assez savoureux. Sur les réseaux sociaux, il y avait une jeune dame qui se faisait passer pour avocate et qui demandait à se faire payer pour consultation, pour prendre en compte des dossiers, etc. Et se qualifiait même, ou se qualifiait plutôt elle-même, de fausse avocate préférée du Québec. Donc sur ses réseaux sociaux, Elle se présentait comme étant une fausse avocate, la fausse avocate préférée du Québec, mais... Elle aurait eu des clients qui, eux, lui auraient, voilà, donc fourni de l'argent, payé des montants d'argent pour avoir, pour soit qu'elle représente leur cause ou qu'elle donne des conseils, ce qui est évidemment illégal lorsqu'on n'a pas le titre d'avocat. Et des plaintes ont été déposées au barreau du Québec, qui a ouvert une enquête pour fraude contre des clients. Nous enquêtons sur Mégane Lalonde, qui n'est pas inscrite au bottin du barreau et qui n'est donc pas avocate. Mélène Brisson, directrice des communications pour le barreau du Québec. Mégane Lalonde, 24 ans, offre ses services sur TikTok ou Instagram en se faisant passer pour une prétendue juriste. La Québécoise se présente en ligne avec des photos retouchées et utilise des fils pour modifier son visage. Elle se décrit elle-même, ironiquement, comme la fausse vraie avocate préférée du Québec. L'enquête a été ouverte pour pratique illégale de la profession d'avocat. Évidemment, on ne précise pas les détails de cette affaire du côté du barreau, puisque l'enquête est toujours en cours. Le barreau indique avoir reçu de nombreuses plaintes au sujet de cette fraudeuse, prétendue fraudeuse, hein, utilisons les bons termes juridiques. On invite toute personne à appeler les policiers si vous êtes victime de fraude et à contacter le barreau si vous êtes victime d'un faux avocat. Une fausse avocat-avocate. Si vous voulez vérifier l'identité d'un avocat, vérifiez sur notre site Internet du Barreau du Québec ou appelez-les. Le scandale a d'abord éclaté sur TikTok hier. Maître Chenelle Alpin, du cabinet Alpin Gauthier Avocat, a publié une vidéo où elle met en garde contre Mégane Lalonde. Le journal, et dans ce cas-ci, c'est Francis Pilon, qui pilotait le dossier, s'est entretenu avec les victimes de Mégane Lalonde. Son modus operandi serait toujours le même. Elle demande d'abord un dépôt au client. Donc, si tu veux mes services, paye-moi. Et disparaît ensuite avec leur argent sans évidemment leur fournir de services. Donc, des gens qui peut-être attendaient pour passer en cours se font dire « Ah, oh, prends à elle, ça va être facile. » Et ne revoit jamais la couleur de leur argent. J'ai eu une contravention pour excès de vitesse. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider si j'envoyais 200$ de dépôt, mais elle m'a bloqué de toutes les plateformes après que j'ai fait mon transfert. Sur une résidente de Terrebonne qui refuse évidemment de dévoiler son identité. En entrevue avec le journal, Mégane Lalonde affirme que son nom de famille n'est pas Lalonde. Elle se présente, n'est pas Lalonde, donc ce ne serait pas elle, finalement. Puisque son nom d'Instagram, c'est Meg Lalo. Donc c'est pas Lalonde, c'est Lalo. Ou ça peut être d'autres choses, genre La Rochelle, mais raccourci, Lalo. En tout cas, c'est pas ça qui est le plus important. Qui est donc cette jeune femme? Je ne vous donnerai pas mon nom de famille avec tout ce qui se passe, mais mon prénom est Mégane et oui, je suis avocate, prétend-elle au téléphone. Prétend au téléphone celle qui a supprimé sa page TikTok mercredi. Donc, elle disparaît tranquillement, pas vite des réseaux sociaux. Et également sur Instagram, elle a un peu nargué le journal. Non, elle continue encore à faire... À faire des publications comme si elle n'était pas coupable, mais que probablement le contraire sera démontré. Hélène Bisson, directrice des communications, souligne qu'il n'y a pas vraiment de raison valable pour qu'un de ses membres refuse de dévoiler son nom complet, à moins qu'elle ne soit pas vraiment avocate, lance-t-elle. Ça aurait été le fun, ça s'était arrêté là. Malheureusement, justement, parce qu'elle a continué d'alimenter ses réseaux sociaux toute la semaine. Journal de Montréal, Journal de Québec, toujours, s'est amusé à aller probablement rencontrer la véritable Megan Lalonde, qui évidemment ne ressemble pas du tout à ses photos, étant retouchée, comme on le disait. Ça fait longtemps qu'elle joue à l'avocate, qu'elle tente de nous faire peur avec son faux titre après avoir fraudé des gens, mais là, ça va loin, son histoire, raconte Dominic Murray en soupirant au bout du fil. Ce dernier a lui aussi été victime de Megan Lalonde, 24 ans. Voilà, représentant du journal a ensuite reçu des dizaines de témoignages de personnes qui auraient été fraudées par la Drummondvilloise. Avant sa fausse carrière d'avocate, elle nous a vendu sur un site de liquidation à elle un gazebo à 4 000 $. Elle m'a facturé le montant, mais on n'a jamais reçu le gazebo et elle a refusé de nous rembourser. J'ai dû me battre avec ma carte de crédit pour récupérer mon argent, selon Dominic Murray, qui a confronté en 2023 la Megan Lalonde en question, d'où la photo qui a été présentée dans le journal de Montréal. Et à cause des retouches, quand on met les deux photos côte à côte de la véritable Megan Lalonde et de son avatar, retouché sur Instagram, on peut faire comme « Ah oui, il y a un certain point de ressemblance. » Donc, on peut penser qu'on a affaire à la bonne. Et on n'a pas donc affaire à une fausse avocate nécessairement, mais plus à une fraudeuse que d'autres choses. Dans les derniers mois, Megan Lalonde a prétendu être jurée sur Instagram et sur TikTok. Elle demande d'abord un dépôt pour « représenter » entre guillemets de futurs clients, puis elle disparaissait avec le magot sans fournir de service. On pouvait notamment voir la vingtenaire dans plusieurs palais de justice de la province. « Je cours pas après les garçons, je cours entre deux salles de cours, puis je suis essoufflé », peut-on lire dans ses publications maintenant effacées. Mais Megan Lalonde ne se rendait pas au tribunal pour représenter des clients. Elle comparaissait plutôt pour des accusations criminelles déposées contre elle. Donc, les photos qu'elle prenait de salles de cours, de elle qui marche en talons, de choses comme ça. Comme par hasard, elle avait d'affaires à être dans les palais de justice. Mais c'était pas nécessairement du côté de la défense que du côté de l'accusé. Et ça, c'est quand même essayer de rentabiliser ces choses, je sais pas. Depuis 2022, la mère d'au moins un enfant aurait été reconnue coupable de 6 chefs d'accusation de fraude en Beauce, à Shawinigan, à Joliette et à Gatineau. Donc, ces décors, ces changements de décors en plus, ces photos d'archives peut-être, elle s'en est par la suite servie pour son personnage d'avocate plus récemment. Elle devrait être de retour en cour pour une accusation de fraude en avril à Victoriaville, où elle a plaidé non coupable. En entrevue la semaine dernière, Megan Lalonde a tenu des propos plutôt décousus. Elle a affirmé au journal « Ben si je fraude depuis des années, pourquoi j'ai jamais encore été arrêté? » Après avoir été reconnue coupable de plusieurs arnaques, elle a en effet évité la prison jusqu'à maintenant en écopant seulement d'amendes, de travaux communautaires et de périodes de probation. Mais probablement, justement, que ce n'était pas des fraudes assez importantes. Probablement, justement, des petits montants. C'est des 200-300 $. Bon, 4 000 pour le gazebo, ça commence à être beaucoup. Mais comme c'est particulier à particulier, c'est pas de la fraude. En tout cas, il y a certains niveaux de fraude. J'ose croire que c'est parce que ça s'est réglé qu'ils n'ont pas nécessairement porté plainte à la cour, qui aurait pu avec 4 000 $. Mais bon, comme c'est des petits larcins, entre guillemets, ou en tout cas, de ce que je comprends, justement, on fait, bon, travaux communautaires et tout ça, mais là, ça s'accumule. C'est pas la première fois non plus. Fait que peut-être que si c'était du côté de Victo, peut-être que du côté de Victoriaville, ça sera pas aussi clément, surtout que l'affaire est médiatisée. Et si on met la main sur la bonne Megan Lalonde, si c'est son vrai nom, on pourra peut-être se rendre compte que finalement, ouais, le dossier commence à être un petit peu épais et va peut-être falloir sévir un petit peu plus durement que juste des travaux communautaires ici et là. Bon, voilà, dans la seconde entrevue, elle affirme qu'elle ne se nommait plus Megan Lalonde, refusait aussi de dire son véritable nom, tout en insistant pour dire qu'elle est d'avocate. J'ai rien à me reprocher, je ne vois pas l'intérêt public de cet article. Et depuis ce temps-là, elle fait des publications en voulant dire vous allez entendre parler de moi, Journal de Montréal, je vais m'occuper de votre cas en tant qu'avocate. Et ce genre de truc un peu absurde pour tenter de se sauver la face. Mais probablement que si c'est pas ces petits larcins à la cour municipale, peut-être est-ce que le barreau du Québec, eux, seront beaucoup moins tendres, quoique eux n'ont pas nécessairement le pouvoir de mettre en prison, si je me souviens bien. Mais en tout cas, l'amende pourrait être bien plus salée que seulement des petits travaux communautaires pour dire. Donc, Mégane Lalonde, avocate présumée sur les réseaux sociaux qui vendait des services bidons juste pour ramasser l'argent. On se souviendra de la jeune millionnaire qui avait écrit un livre, mais qui finalement était pleine de dettes et avait déclaré faillite. La fausse avocate préférée du Québec. Bon, évidemment, ce titre-là a été enlevé, mais son compte Instagram également a été épuré. Il ne reste plus grand-chose, sauf une publication ici et là de temps en temps pour juste mettre un petit peu d'huile sur le feu parce qu'elle semble bien aimée malgré tout l'attention qu'on lui donne, même si ce n'est pas d'intérêt public comme elle se prétend, comme elle ose le prétendre. On s'arrête quelques instants, on retourne la suite de ce deuxième service ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. De retour, deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ, Cédric Saint-Donge, rappelle-moi ton nom qu'on vient d'entendre en musique. Restons dans le domaine de la fraude, puisque ça c'est, on était dans le judiciaire cette semaine, ça arrive. Du côté américain, un Québécois a écopé une peine de 10 ans de prison pour avoir opéré l'une des plus importantes fraudes postales de l'histoire, d'une valeur d'environ 240 millions de dollars et avoir fait plus de 1,3 million de victimes américaines. Hein, on est capable au Québec, yeah! Patrice Runner, 57 ans, qui pourrait s'imposer comme le plus grand fraudeur issu de la province, a reçu sa sentence lundi dans l'État de New York. Le style de vie extravagant de Patrice Runner sur le dos des millions d'Américains plus âgés et vulnérables a pris fin. Déclaré Chris Nielsen, inspecteur responsable de la division de Philadelphie de la United States Postal Service, sa condamnation et sa peine fédérale sont les punitions appropriées. En juin dernier, Runner a été déclaré coupable d'une quinzaine de chefs d'accusation pour fraude postale, électronique et complot afin d'effectuer du blanchiment d'argent au terme d'un procès devant jury de 2 semaines. Le Québécois a escroqué des citoyens sur plus de 2 décennies, soit entre 1994 et 2014. Le siège social de l'entreprise qu'il dirigeait se trouvait Place Ville-Marie, au centre-ville de Montréal. Le stratagème mis en place utilisait l'identité de médiums de renommée mondiale tels que Maria Duval et Patrick Guérin. Cette affaire a fait l'objet de multiples reportages ainsi que d'un livre intitulé « A Deal with the Devil, the Dark and Twisted True Story of One of the Biggest Cons in History ». Les lettres frauduleuses qui semblaient personnalisées étaient acheminées à des dizaines de milliers de foyers par semaine. Les gens recevaient donc « Bonjour, telle personne. Voulez-vous connaître les secrets du monde? Envoyez-nous de l'argent, nous vous les donnerons. » Avec sincère amitié, Maria Duval ou whatever, en échange de frais allant de 5 à 50 $ américains, les voyants offraient notamment d'aider les victimes à obtenir de la chance ou à éviter des malheurs. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en 2014, il y avait encore du monde. Mais en même temps, on reçoit tellement de trucs par la malle des fois. Des fois, des lettres écrites à la main par les témoins de Jéhovah, mais sinon... Donnez-moi... En même temps, c'est les États-Unis. Hein? Ils sont quand même bons là-dessus. Fait que réussir à frauder du monde par la malle, faut le faire. Dès qu'une personne se faisait avoir une première fois, Elle recevait évidemment d'autres demandes de frais, variant cette fois-ci entre 20 et 50 $ pour d'autres consultations. La société derrière cette arnaque de masse a obtenu la majorité des coordonnées de ses victimes grâce à des listes d'envoi et d'autres publiposteurs. Runner utilisait des sociétés écrans au Canada et à Hong Kong afin de cacher son implication alors qu'il vivait en Suisse, en France, aux Pays-Bas, Costa Rica, Espagne. Donc, sa compagnie était à Montréal, il fraudait les Américains, s'était enregistré à Hong Kong, il vivait en Europe. C'est fascinant. Pendant un peu plus de 20 ans. La fraude a cessé en 2016 quand les autorités américaines ont interdit aux sociétés d'utiliser leurs services postaux. La tête dirigeante a ensuite été arrêtée par les autorités espagnoles puis accusée avant d'être extradée aux États-Unis en 2020. Runner risquait jusqu'à 20 ans de prison pour chacune des accusations. Déjà en 90, il avait écopé de 100 000 $ d'amende au Québec pour avoir publié, quoi par hasard, des petites annonces de service d'un voyant qui pouvait prédire des numéros de loterie gagnants. Déjà, il avait commencé localement, il s'est dit « je me suis fait pogner au Québec, je vais aller à l'international à la place » et ça a marché. Deux de ses complices, Maria Thanos et Philippe Lett, deux Montréalais, ont plaidé coupables de complot afin de permettre de commettre la fraude postale en 2018. À titre comparatif, pour une fraude près de chez nous, Vincent Lacroix, avec Norbourg, avait floué 9 200 investisseurs pour 130 millions en 2005, ce qui fait en sorte que même si c'était aux États-Unis, comme c'est un Québécois, à 240 millions... Notre monsieur Patrice Runner, dans son cas, lui, a doublé le montant. Il est maintenant en titre le plus grand fraudeur de l'histoire du Québec. C'est pas parce qu'on en rit que c'est drôle, mais pour les montants, pour avoir réussi un stratagème aussi bien ficelé et avoir opéré si longtemps, c'est quand même impressionnant. Et peut-être aurons-nous un film avec Vincent Guillaume Motis dans les prochaines années. Sait-on jamais. Il ne ressemble pas beaucoup à Vincent Guillaume. Ah, peut-être Sébastien Ricard. Sébastien Ricard a le look de Patrice Runner avec les lunettes de... lunettes des colocs. Enfin, on ne sait-on jamais. Ça pourrait faire un bon film, ça c'est sûr et certain. 14 personnes ont été arrêtées à Montréal également et dans les environs. Ils sont accusés de fraude et d'avoir participé à des fraudes téléphoniques contre des aînés partout au Canada. Donc les fameuses fraudes grand-père, grand-mère. Allô, grand-papa, je suis en prison. Envoie-moi des cartes cadeaux d'Amazon pour que je puisse sortir de prison. C'est un peu étrange dit de même, mais c'est des fois ça que ça donnait. Ou transfère-moi de l'argent pour que je puisse payer ma caution. 14 arrestations dans le crime organisé traditionnel italien à Montréal via le service de police de la police provinciale de l'Ontario qui dirige l'enquête conjointe, les accusés visant des personnes âgées qui ont des téléphones à ligne terrestre. Ils tentent ensuite de leur subtiliser de l'argent en affirmant qu'un de leurs proches avait un urgent besoin d'argent. Selon le communiqué de la police publié jeudi, les accusés ont obtenu plus de 2 millions de $ de façon frauduleuse depuis 2022. Les arrestations ont eu lieu entre le 10 et le 16 avril dernier. Ce groupe du crime organisé a exploité des victimes de façon délibérée et méthodique. Selon le commandant Shane Chatlin de la PPO, lors d'un point de presse, également présent, le directeur adjoint de la Sûreté du Québec, Benoît Dubé, qui a précisé que le groupe est lié au crime organisé traditionnel italien. Ils prétendaient être des policiers, des juges et des avocats lorsqu'ils s'attaquaient aux grands-parents. Donc, plus besoin de se soucier si la personne âgée avait un petit-fils ou une petite-fille. On y allait directement avec un membre d'autorité. D'où pourquoi cette fraude-là a évolué. Parce que justement, les gens commençaient à être de plus en plus au courant qu'on pouvait vous faire accroire que votre petit-fils ou votre petite-fille était en prison et avait besoin d'aide. Là, dans ce cas-ci, on rajoutait un élément de pression en disant « Oui, bonjour, je suis juge, j'ai devant moi votre petite fille pour qu'elle sorte de prison, donnez-moi des cartes Amazon. » Ça reste encore des cartes cadeaux puis des trucs comme ça qui, évidemment, ne sont pas particulièrement bien retraçables, mais c'est surtout dans l'idée que « Ah, grosse amende, là, une affaire de 4 000$, mais c'est ça, si... si vous me donnez, mettons, 250 en carte Amazon, ça va être correct. On va la laisser aller. T'sais, on faisait un rabais. T'sais, on va mettre ça en dessous de la table, on le dira pas. Donnez-moi juste 500$, ça va être correct. Fait que, tu sais, on est rendu là. Puis justement, ben, ces personnes âgées-là ont un peu discuté, comprennent pas le stress qui embarque en plus d'avoir « oui, je suis un policier, donnez-moi de l'argent », tu sais, tu te poses peut-être pas la question, ou en tout cas, tu as l'impression que c'est vrai, tu y crois, puis il y a malheureusement pour 2 millions de dollars de fraude qui s'est faite dans cette patente-là, évidemment, il y en a plein d'autres, mais... voilà, donc au moins ces personnes-là ont été arrêtées. Évidemment, ça ne sera pas la fin complètement des fraudes par téléphone, mais c'est sûr et certain que si on reçoit des appels un peu particuliers, faut toujours se poser la question. Autant faut se poser sur la question si ce qu'on lit sur Internet est vrai, autant les téléphones de ce genre-là, si on ne reconnaît pas tout de suite la voix ou si on a un petit doute, on peut poser des questions aussi, là. Et évidemment, si on vous demande de payer en carte cadeau qui s'achète au couche-tard, c'est pas un signe de quelque chose qui va se pouvoir. Là. Un juge qui veut se faire payer en carte cadeau iTunes, mettez un point d'interrogation. Ou des Visa prépayés, Mastercard prépayés, tout ça au dépanneur, là. Posez-vous des questions. Autant les dépanneurs peuvent poser des questions à des personnes âgées de qu'est-ce que vous voulez faire avec 500 pièces de carte cadeau prépayée, autant que on peut se poser la question de « Ah ouais, hein, un juge veut du Amazon pour laisser passer une amende de 5 000 $, tu sais. » Faut faire attention, c'est sûr et certain. On s'arrête quelques instants. On retourne la suite de ce deuxième service ici même sur le zone de CFAQ 80.3 et de CHIS 94.3. Chose sauvage qu'on vient d'entendre en musique avec pression sur les zones de CFAQ, sur les zones de CHIS. Bande annonce tout de suite, ça faisait longtemps. On retourne au cinéma avec un film qui ne laissera personne indifférent, mais mettons qu'on reste aussi un peu sur notre fin, j'ai envie de dire. Une fin qui laisse sur la fin. Guerre civile, Civil War, présentement à l'affiche.
L'armée des États-Unis intensifie ses offensives.
La Maison-Blanche a mis en garde les forces de l'Ouest ainsi que l'Alliance de la Floride.
Le président qui exerce son troisième mandat nous assure que la révolte sera rapidement maîtrisée.
Si vous voulez essayer quelque chose, faites-moi signe.
Êtes-vous au courant qu'il y a une importante guerre civile qui fait rage à travers tout le pays?
On essaie de ne pas s'en mêler. Avec tout ce qu'on voit aux nouvelles, c'est mieux comme ça.
Citoyens des États-Unis,
le groupe armé, connu sous le nom des Forces de l'Ouest du Texas et de la Californie,
a subi une écrasante défaite aux mains de l'armée des États-Unis.
Monsieur le Président, regrettez-vous d'avoir mené des frappes aériennes contre des citoyens américains?
Ils s'en vont à Washington, aujourd'hui.
Alors on doit y aller aussi.
Ils tirent à vue sur les journalistes dans la capitale.
Tous mes instincts me disent que je cours à ma perte.
On avance.
Chaque fois que je suis revenue vivante d'une zone de guerre, je croyais envoyer un message fort chez nous. Ne faites pas ça. Pourtant, nous y voilà.
Tout ça n'est qu'un énorme malentendu.
Ah ouais?
On est Américains, d'accord?
D'accord. Et quel genre d'Américain êtes-vous?
Vous ne le savez pas.
Les forces de l'Ouest atteindront la Maison-Blanche le 4 juillet.
Ouais. Montez dans la voiture! Vite dans la voiture!
Allez, vite!
On va rester en retrait.
Je suis pas du genre à rester en retrait.
Une nation unie, sous l'autorité de Dieu,
indivisible, avec la liberté et la justice pour tous.
Vite, 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 vite.
Que Dieu bénisse l'Amérique.
Mettant entre autres en vedette Kristen Dunst dans le rôle de Peter Parker là-dedans. Non, c'est pas vrai. Lee Smith, son nom de personnage, élu pour un troisième mandat. L'autoritaire président des États-Unis a provoqué la sécession des États de la Californie et du Texas. Oui, Californie et Texas s'unissent dans ce film pour avoir deux États contre, ben là, on dit 19 dans la bande-annonce, fait que c'est pas tout à fait les 48 autres, mais bon. Détail, assiégé par les rebelles, le gouvernement central continue à ordonner des bombardements aériens sur des civils en poste à New York. Lee Smith, photographe de guerre réputé, convainc son confrère Joel, journaliste à l'agence Reuters, son vieil ami Sammy, vétéran du New York Times, et leur stagiaire de se rendre à Washington afin d'interviewer le président aux abois. Il est sur le bord de capituler. À la dernière minute, voilà, Jesse, aspirante photographe de guerre, admirative du travail de Lee, s'embarque avec eux dans ce qui s'annonce, comme un périlleux voyage, puisqu'évidemment, on ne va pas de New York à Washington, D.C. directement. On fait un gros détour pour passer en Virginie-Occidentale, notamment. C'est un détour par la Virginie, en tout cas, Pennsylvanie. On fait un petit tour du côté de l'Ouest et on revient pour montrer également, comme par hasard, de comment réagiront les différents États de ce parcours, notamment des villages où il se passe à peu près rien. On dirait qu'on a l'impression que la guerre civile n'a pas lieu dans cet État-là. On part d'une prémisse de quelque chose qui pourrait se passer, entre guillemets, une guerre civile aux États-Unis parce que justement un président veut prendre plus de pouvoir qu'il n'est supposé le faire. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne le sont pas. Dans ce cas-ci, la Californie et le Texas, eux, ne voulaient pas que ça se fasse un troisième mandat présidentiel. Est-ce que c'est un film de guerre? Est-ce que c'est un film de journalisme? La question est lancée, lequel des deux, parce qu'on passe surtout par le point de vue des journalistes de guerre qui couvrent leur propre pays dans ce cas-ci. Et justement, la question éthique de qu'est-ce que je prends en photo, qu'est-ce que je ne prends pas en photo, de quelle manière, sans être dans le chemin non plus, parce que certains segments du film sont justement véhiculés par les photographies prises. Donc, pour ça, l'exercice est intéressant. Et bon, oui, c'est violent. Il y a des gens qui meurent, c'est sûr et certain. C'est de la guerre. Il y a beaucoup de guerres aussi simulées, entre guillemets, où justement, on regarde la guerre, mais d'un point de vue un peu plus loin. Donc, on voit les lumières et les coups de feu s'échanger. Bon, c'est sûr que le dernier tiers où on est rendu dans « À l'assaut à la Maison-Blanche », sur la Maison-Blanche, où on tente de justement aller rechercher le dernier président des États-Unis. Tout ce segment-là, évidemment, il est beaucoup plus guerrier. Quoique, les journalistes sont encore là, mais la question se pose, comment ils font leur topo, qu'est-ce qu'ils prennent en photo, qu'est-ce qu'ils ne prennent pas en photo. Tout est là. Donc, la question éthique est présente. Et justement, cette fin où, bon, des personnages doivent disparaître, mais on se dit, ah ouais? Tout ça pour ça. Je suis un peu resté interrogateur sur la fin et la question m'a traversé l'esprit. Pourquoi le Texas et la Californie ont décidé de s'unir? Qui sont les 19 autres États qui, semble-t-il, sont supporteurs des deux autres, des forces de l'Ouest, comme ils se nomment eux-mêmes? On entend au début du film que la Floride essaie de se séparer, mais finalement, ils ne le font pas. Pourquoi? Mon guess, ce serait qu'un peu comme dans la série La Purge aux États-Unis, qu'une journée par année, on permet tous les crimes inimaginables pendant 24 heures et par la suite, c'est terminé. Mon guess pour guerre civile, c'est qu'il y aura d'autres films si celui-là fonctionne bien. Les origines, le commencement, l'après-guerre. Tu sais, il y a une possibilité de faire plein de films et justement de répondre à la question, c'est qui ce président-là? Parce qu'en tant que tel, ce président-là, on le voit au début et à la fin et c'est tout. Et encore là, au début, il fait un discours qu'on entend un peu dans la bande-annonce, mais il fait le discours de quel est l'état actuel de la situation. Comme si il était en train de résumer les événements d'un autre film. Tu sais, l'espèce de récapitulatif de voici ce que vous avez manqué si vous n'avez pas vu les autres films. Fait que j'ai vraiment l'impression que si cette guerre civile-là fonctionne, il y aura les origines. Il y aura le premier bastion. Parce que les derniers personnages, le dernier bastion qui va chercher le président, on met beaucoup d'emphase sur eux autres. Mais la première fois qu'on les voit, ça fait déjà au moins 1h45 que le film est commencé parce que c'est un film de 2h. Fait que j'ai l'impression que ces personnages-là pourraient revenir éventuellement dans le bataillon de l'Ouest, les forces de l'Ouest. Tu sais, revenir avec, à la limite, une trilogie. Il y a de quoi faire une trilogie avec ça, parce que justement, pourquoi ce président-là est rendu à son troisième mandat? Comment on est arrivé à ce que ce président-là décide et réussisse à se faire voter un troisième mandat? La dissension Californie-Texas, pourquoi eux autres s'allient? Pourquoi le Nevada n'est pas là? Pourquoi les États autour sont pas là? Pourquoi c'est Texas-Californie, à part être les plus gros? Tu sais, qui sont les 19 autres? Comment ils vont se joindre à la Californie? Fait que c'est violent, on fait le saut à plusieurs occasions parce qu'il y a des coups de gun qu'on voit pas venir, ou en tout cas qu'on pourrait se douter, mais qu'on, si on est un peu nerveux, on sursaute. Mais un peu incomplet aussi. T'sais, autant que la question journalistique est intéressante, peut-être parce que moi-même, je suis dans le domaine des médias, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui va aller voir le film va y trouver son compte. Dans la salle, les gens, sauf deux personnes, sont restées jusqu'à la fin. C'est vrai, il y a deux personnes qui ont quitté en pleine projection. Ça me fait rire, les gens qui quittent en plein milieu d'un film. Je comprends que tu peux ne pas aimer ça, mais tu sais, d'un coup que l'action s'en viendrait dans la deuxième moitié que tu verras pas parce que tu décides de quitter. Hein? Puis réellement, l'action, elle se passait... Il y a beaucoup d'action dans tout le film. C'est un film d'action, de guerre et de journalisme. Mais il y avait quand même l'assaut final dans le dernier épisode. Fait qu'on a comme vu le troisième épisode d'une trilogie. Parce que tu peux avoir avant la guerre civile, pendant et ce qu'on voit dans Guerre civile 2024. C'est comme la conclusion. Parce qu'on se rend jusqu'au président. Donc voilà. Oui, ça peut valoir la peine de le voir en salle, grand écran, c'est sûr. Soyez avertis, on fait le saut. Mais en tant que tel, pour moi, il est un peu incomplet. On ressort avec beaucoup de questions. Et évidemment, on se dit, ouais, les États-Unis seraient capables de faire ça. Et le clin d'œil au Canada en disant, je vais vous payer en argent canadien. Ils font comme, ah ouais, hein, de l'argent canadien. Fait que, évidemment, le dollar américain est au point mort. S'il y a une guerre civile et notre dollar à nous valait que de quoi. Mais j'ai trouvé le clin d'œil quand même assez drôle de faire comme, on va vous payer en dollars canadiens. Ah, OK, tu peux mettre du gaz dans ton char. Fait que, tu sais, il y a eu cette mini-intrigue-là qui m'a fait bien sourire. Mais sinon, c'est ça. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens dans ce film-là et une fin peut-être un peu moins convaincante, mais sait-on jamais. Il y a une possibilité, tant qu'à moi, de faire d'autres films avec cette prémisse-là. J'en serais pratiquement pas surpris si ça s'y arrive. Si dans 2 ans, on avait un antépisode à cette guerre civile-là, ça serait pas complètement impossible. On s'arrête là-dessus. Au retour, la conclusion de l'émission de cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Un peu de distorsion élégie qu'on vient d'entendre en musique avec personne. Pour conclure cette semaine, ça a été la grosse question. Serons-nous capables, du côté américain, de trouver 12 personnes neutres d'opinion sur Donald Trump, plus 4 pour au cas où. Donc 16 personnes devaient être trouvées pour former le jury du procès contre Donald Trump pour fraude électorale, d'avoir payé l'ancienne actrice Stormy Daniels avec des fonds de sa campagne électorale, donc un procès, un des nombreux procès qui s'ouvraient pour Donald Trump au courant des prochaines semaines, mois à venir. Dans ce cas-ci, celui-là était déjà annoncé. Les avocats de Donald ont tenté de remettre le procès le plus de fois qu'ils ne le pouvaient. Malheureusement, pour le principal intéressé, ce n'est pas le cas. On a commencé à la sélection des jurys. Et pour cette sélection des jurys, ça a été particulièrement fastidieux. Au terme du premier jour, il n'y avait personne de choisi. On avait choisi 7. Dans les premiers jours, le lendemain, on apprenait que 2 devaient se désister et qu'on recommençait le processus pour trouver... pour en trouver 9, 11 toujours, non pas 11, 9 supplémentaires, plutôt que les 7 autres. Plus de la moitié d'un premier groupe de 96 jurys potentiels ont déjà été exclus à leur propre demande parce qu'ils se jugeaient trop partiaux pour être jurés dans ce procès. Selon CNN, au moins 9 autres l'ont été pour des raisons qu'ils n'ont pas eu à expliquer. Parce que les gens qui ont été sélectionnés ont été passés au peigne fin. On a exploré les pages Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, donc tous les réseaux sociaux, toutes les informations qu'on était capable d'avoir sur ces personnes-là ont été examinées par la défense et par la partie accusatrice, j'allais dire la couronne, mais aux États-Unis, c'est pas une couronne. Procès pour falsification de documents en lien avec de l'ingérence électorale, le vrai terme. Processus de sélection des jurys a finalement commencé en milieu d'après-midi, après des heures de débat consacrées à des questions préliminaires sur le déroulement du procès. Dans le long questionnaire que devaient répondre en plus les jurys, évidemment, et c'est ça qui est particulier, c'était d'essayer de trouver des gens qui n'avaient pas d'opinion sur Donald Trump, et ou qui n'avait pas d'opinion sur l'affaire avec Stormy Daniels. Mais en même temps, on parle tout de même de l'ancien président des États-Unis, qu'on le veuille ou non. Fait que c'est un petit peu difficile de faire « qui est cet homme de télévision, président des États-Unis, que je n'aurais pas d'opinion sur? » Semble-t-il qu'on a été capable de trouver ces personnes-là quand même au terme du jour suivant. Mais, évidemment, première question, si vous avez une raison honnête, légitime et de bonne foi de penser que vous ne pouvez pas siéger dans ce procès, que vous ne pouvez pas être juste impartial, veuillez m'en faire part dès maintenant. C'est comme ça qu'ouvrait le procès avec le juge de la Cour suprême de New York, Juan Merchant. En matinée, le juge a acquiescé à la demande de la défense de départager les raisons d'exemption et pouvoir déterminer quelle proportion de candidats se sont jugés trop subjectifs. La défense compte vraisemblablement de se préparer à un éventuel appel s'appuyant sur l'existence d'un très vaste bassin de jurés potentiels jugés trop partiaux. Parce que s'ils sont arrivés en disant « je pense pas avoir une bonne opinion » et qu'ils ont été remerciés de cette façon-là, ils risquent de retourner et que l'on leur pose des questions. Mais les questions après ça, ça va dans tous les sens. On leur demande quel genre d'émission de TV qu'ils écoutent, quel poste de télévision qu'ils écoutent, fait que pour un peu essayer d'avoir un truc le plus représentatif possible. On essaie d'y aller différemment dans les âges. Les hommes, les femmes, etc. Âgés, plus jeunes. Fait que c'est un gros exercice quand même, d'essayer de trouver des gens qui sont neutres, répondre après 42 questions et que les deux parties disent « ouais, c'est satisfaisant ces 42 questions-là ». C'est quand même fastidieux. On n'est pas là pour seulement 5 minutes. On est là quand même pour, par chaque personne, on est quand même là pour un bon moment. Outre les questions usuelles et prévisibles, le formulaire couvrait un large éventail de sujets liés spécifiquement au procès. Par exemple, de quelle manière ils s'informent, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ou à la télévision, quel poste, leur éventuelle appartenance à des groupes comme... QAnon, les conspirationnistes, les Proud Boys, croyez-vous que la Terre est plate? Fait que, tu sais, On doit ratisser le plus large possible pour être capable d'avoir des personnes neutres qui n'ont pas d'opinion sur la situation, sur Donald Trump. C'est particulier. Ont-ils déjà participé à des manifestations pour ou contre Donald Trump? Était-il présent le 6 janvier? Si la réponse est oui et qu'ils sont assez niaiseux pour dire oui, par exemple, ils vont passer dans une autre pièce et ils vont avoir un autre traitement. Mais ça, c'est une blague plus que d'autres choses. Je ne pense pas qu'il y ait réellement quelqu'un qui a dit « Oui, oui, j'étais là le 6 janvier. Je suis rentré dans le... Je suis rentré à l'Assemblée. Oui, oui, c'était moi. » Non, non, non. Mais voilà, donc c'est assez difficile, c'est ça, de trouver... Et en même temps, on ne veut pas tomber dans le piège d'avoir du monde qui sont complètement favorables à Donald Trump, qu'on ne veut pas des gens qui sont complètement en désaccord contre Donald Trump. Fait que... Gros exercice. C'est assez compliqué. Ils ont quand même réussi à trouver des personnes. Après ça, on restera à voir comment le procès s'enlignera, mais ce sera très certainement un procès... Ben en fait, ça l'est déjà, mais on confirme que ce sera également extrêmement suivi et que ce sera examiné de près. Dans ce cas-ci, c'est de la fraude financière. On n'est pas encore dans les autres procès, mais à New York, c'était pour ça. C'était d'avoir pigé dans la petite caisse pour acheter le silence de Stormy Daniels. C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Restez bien branchés sur vos fréquences respectives. À la semaine prochaine. Salut.